Armance, suite 6.
Chapitre 20. A fine woman, a fair woman, a sweet woman. Nay, you must forget that. Oh, the world has not a sweeter creature. Othello, Act 4.
Pendant qu'Armand se promenait seul dans une partie du bois d'Andilly, inaccessible à tous les yeux, Octave était à Paris, occupé des préparatifs de son départ. Il éprouvait des alternatives d'une sorte de tranquillité étonnée d'elle-même, suivie d'instants du désespoir le plus poignant. Essayerons-nous de rappeler les différents genres de douleurs qui marquaient chaque instant de sa vie? Le lecteur ne se lassera-t-il pas de ces tristes détails? Il lui semblait entendre constamment parler tout près de son oreille, et cette sensation étrange et imprévue l'empêchait d'oublier un instant son malheur. Les objets les plus indifférents lui rappelaient Armance. Sa folie allait au point de ne pouvoir apercevoir à la tête d'une affiche ou sur une enseigne de boutique un A ou un Z sans être violemment entraîné à penser à cette Armance de Zoïloff qu'il s'était juré d'oublier. Cette pensée s'attachait à lui comme un feu dévorant, et avec tout cet attrait de nouveauté, avec tout l'intérêt qu'il y eût mis, si depuis des siècles l'idée de sa cousine ne lui fût apparue. Tout conspirait contre lui. Il aidait son domestique, le brave Vorepe, à emballer les pistolets. Le bavardage de cet homme, enchanté de partir seul avec son maître et de disposer de tous les détails, le distrayait un peu. Tout à coup, il aperçoit ces mots gravés en caractères abrégés sur la garniture d'un des pistolets. Armance essaye de faire feu avec cette arme le 3 septembre 1820. Il prend une carte de la Grèce, en la dépliant, il fait tomber une de ses aiguilles garnies d'un petit chapeau rouge avec lesquelles Armance marquait les positions des Turcs lors du siège de Missolonghi. La carte de la Grèce lui échappa des mains. Il resta immobile de désespoir. « Il m'est donc défendu de l'oublier !» s'écria-t-il en regardant le ciel. C'était en vain qu'il cherchait à se donner quelque fermeté. Tous les objets qui l'environnaient portaient les marques du souvenir d'Armance. L'abrégé de ce nom chéri, suivi de quelques dates intéressantes, était écrit partout. Octave errait à l'aventure dans sa chambre. Il donnait des ordres qu'il révoquait à l'instant. « Je ne sais ce que je veux, » se dit-il au comble de la douleur. « Oh, ciel, comment peut-on souffrir davantage ?» Il ne trouvait de soulagement dans aucune position. Il faisait les mouvements les plus bizarres. S'il en recueillait un peu d'étonnement et de douleur physique pendant une demi-seconde, il était distrait de l'image d'Armance. Il essaya de se causer une douleur physique assez violente toutes les fois que son esprit lui rappelait Armance. De toutes les ressources qu'il imagina, celle-ci fut la moins inefficace. « Ah !» se disait-il en d'autres moments, « il ne faut jamais la revoir. Cette douleur l'emporte sur toutes les autres. C'est une arme acérée dont il faut user la pointe à force de m'en percer le cœur. » Il envoya son domestique acheter quelqu'une des choses nécessaires au voyage. Il avait besoin d'être débarrassé de sa présence autour de lui. Il voulait, pendant quelques instants, se livrer à son affreuse douleur. La contrainte semblait l'envenimer encore. Il n'y avait pas 5 minutes que ce domestique était hors de la chambre qu'il lui sembla qu'il aurait trouvé du soulagement à pouvoir lui adresser la parole. Souffrir dans la solitude était devenu le pire des tourments. « Et ne pouvoir se tuer !» s'écria-t-il. Il se mit à la fenêtre pour tâcher de voir quelque chose qui pût l'occuper un instant. Le soir vint, l'ivresse ne lui fut d'aucun secours. Il en avait espéré un peu de sommeil, elle ne lui donna que de la folie. Effrayé des idées qui se présentaient à lui et qui pouvaient le rendre la fable de la maison et compromettre Armance indirectement, « Il vaudrait mieux, se dit-il, m'accorder la permission de finir. » Et il s'enferma à clé. La nuit était avancée. Immobile sur le balcon de sa fenêtre, il regardait le ciel. Le moindre bruit attirait son attention. Mais peu à peu, tous les bruits cessèrent. Ce parfait silence, en le laissant tout entier à lui-même, lui parut ajouter encore à l'horreur de sa position. L'extrême fatigue lui procurait-elle un instant de demi-repos? Le bourdonnement confus de paroles humaines qu'il lui semblait entendre auprès de son oreille le réveillait en sursaut. Le lendemain, lorsqu'on entra chez lui, le tourment moral qui le poussait à agir était si atroce qu'il se sentit l'envie de sauter au cou du coiffeur qui lui coupait les cheveux et de lui dire combien il était à plaindre. C'est par un cri sauvage que le malheureux que torture le bistouri du chirurgien croit soulager sa douleur. Dans les moments les plus supportables, Octave se trouvait le besoin de faire la conversation avec son domestique. Les minutes les plus puériles semblaient absorber toute son attention, et il s'y appliquait avec un soin marqué. Son malheur lui avait donné une excessive modestie. Sa mémoire lui rappelait-elle quelqu'un de ces petits différends que l'on rencontre dans le monde? Il s'étonnait toujours de l'énergie peu polie qu'il avait déployée. Il lui semblait que son adversaire avait eu toute raison et lui tous les torts. L'image de chacun des malheurs qu'il avait rencontrés dans sa vie se représentait à lui avec une intensité douloureuse. Et parce qu'il ne devait plus voir Armance, le souvenir de cette foule de petits mots qu'un de ses regards lui eût fait oublier se réveillait plus acerbe que jamais il n'avait été. Lui, qui avait tant abhorré les visites ennuyeuses, il les désirait maintenant. Un sot qui vint le voir fut son bienfaiteur pendant une heure. Il eut à écrire une lettre de politesse à une parente éloignée. Cette parente fut tentée d'y voir une déclaration d'amour, tant il parlait de lui-même avec sincérité et profondeur, et tant on y voyait que l'auteur avait besoin de pitié. Au milieu de ces alternatives douloureuses, Octave était arrivé au soir du second jour depuis qu'il avait quitté Armance. Il sortait de chez son cellier. Tous ses préparatifs allaient enfin être terminés dans la nuit, et dès le lendemain matin, il pourrait partir. Devait-il retourner à Andilly? Telle était la question qu'il agitait avec lui-même. Il voyait avec horreur qu'il n'aimait plus sa mère, car elle n'entrait pour rien dans les raisons qu'il se donnait pour revoir Andilly. Il redoutait la vue de mademoiselle de Zoïlov, et d'autant plus que, dans de certains moments, il se disait « Mais toute ma conduite n'est-elle pas une duperie ?» Il n'osait se répondre « Oui ». Mais alors le parti de la tentation disait « N'est-ce pas un devoir sacré de revoir ma pauvre mère à qui je l'ai promis ?»« Non, malheureux !» s'écriait la conscience. « Cette réponse n'est qu'un subterfuge. Tu n'aimes plus ta mère. » Dans ce moment d'angoisse, ses yeux s'arrêtèrent machinalement sur une affiche de spectacle. Il y vit le mot « Othello » écrit en fort gros caractères. Ce mot lui rappela l'existence de Madame d'Aumale. Peut-être sera-t-elle venue à Paris pour Othello. En ce cas, il est de mon devoir de lui parler encore une fois. Il faut lui faire envisager mon voyage, si subi, comme l'idée d'un homme qui s'ennuie. J'ai longtemps dérobé ce projet à mes amis, mais depuis plusieurs mois, mon départ n'était retardé que par ces sortes de difficultés d'argent dont on ne peut parler à des amis riches.
Chapitre 21. Durate et vos maître rebus servate secundis. Virgile.
Octave entra au théâtre italien. Il y trouva en effet Madame d'Aumale, et dans sa loge un marquis de Crèveroche. C'était un des fats qui obsédait le plus cette femme aimable. Mais avec moins d'esprit ou plus de suffisance que les autres, il se croyait distingué. À peine Octave parut-il que Madame d'Aumale ne vit plus que lui, et le marquis de Crèveroche, outré de dépit, sortit sans que son départ fût même remarqué. Octave s'établit sur le devant de la loge, et, par habitude prise, car ce jour-là il était loin de chercher à affecter quoi que ce soit, il se mit à parler à Madame d'Aumale d'une voix qui, quelquefois, couvrait celle des acteurs. Nous avouerons qu'il outrepassa un peu le degré d'impertinence toléré. Et si le parterre du théâtre italien eût été composé comme celui des autres spectacles, il eût eu la distraction d'une scène publique. Au milieu du second acte d'Othello, le petit commissionnaire qui vend les libretti d'opéra et les annonces d'une voix nasillarde vint lui apporter le billet suivant. « J'ai naturellement, monsieur, assez de mépris pour toutes les affectations. On en voit tant dans le monde que je ne m'en occupe que lorsqu'elles me gênent. Vous me gênez par le tapage que vous faites avec la petite d'Aumale. Taisez-vous. J'ai l'honneur d'être, etc. Le marquis de Crèveroche, rue de Verneuil, numéro 54. » Octave fut profondément étonné de ce billet qui le rappelait aux intérêts vulgaires de la vie. Il fut d'abord comme un homme qu'on aurait tiré de l'enfer pour un instant. Sa première idée fut d'affecter la joie qui bientôt inonda son âme. Il pensa que la lorgnette de monsieur de Crèveroche devait être dirigée vers la loge de Madame d'Aumale, et que ce serait un avantage pour son rival si elle avait l'air de moins s'amuser après son billet. Ce mot de rival, qu'il employa en se parlant à lui-même, le fit pouffer de rire. Son regard était étrange. « Qu'avez-vous donc ? » dit Madame d'Aumale. « Je pense à mes rivaux. Peut-il y avoir sur la terre un homme qui prétende vous plaire autant que je le fais ?» Une aussi belle réflexion valait mieux pour la jeune comtesse que les accents les plus passionnés de la sublime Pasta. Le soir, fort tard, après avoir reconduit chez elle Madame d'Aumale qui voulut souper, Octave, rendu à lui-même, était tranquille et gai. Quelle différence avec l'état où il se trouvait depuis la nuit passée dans la forêt. Il était assez malaisé pour lui d'avoir un témoin. Ses manières tenaient tellement à distance, et il avait si peu d'amis, qu'il craignait beaucoup d'être indiscret en priant un de ses compagnons de vie de l'accompagner chez monsieur de Crèveroche. Il se souvint enfin d'un monsieur d'Ollier, officier à demi-solde, qu'il voyait fort peu, mais qui était son parent. Il envoya à 3 heures du matin un billet chez le portier de monsieur d'Ollier. À 5 heures et demie, il y était lui-même, et peu après, ces messieurs se présentèrent chez monsieur de Crèveroche, qui les reçut avec une politesse un peu maniérée, mais enfin fort pure de forme. « Je vous attendais, messieurs, » leur dit-il d'un air libre. « J'ai eu l'espérance que vous voudriez bien me faire l'honneur de prendre du thé avec mon ami monsieur de Mélan, que j'ai l'honneur de vous présenter, et moi. » On prit du thé. En se levant de table, monsieur de Crèveroche nomma le bois de Meudon. La politesse affectée de ce monsieur-là commence à me donner de l'humeur pour mon compte, dit l'officier de l'ancienne armée en remontant dans le cabriolet d'Octave. Laissez-moi mener, ne vous gâtez pas la main. Combien y a-t-il de temps que vous n'êtes entré dans une salle d'armes ?
3 ou 4 ans, dit Octave. C'est du plus loin qu'il me souvienne.
Quand avez-vous tiré le pistolet en dernier lieu ?
Il y a 6 mois, peut-être, mais jamais je n'ai songé à me battre au pistolet.
Diable ! Dit monsieur d'Ollier. 6 mois ! Ceci me contrarie. Tendez le bras vers moi.
Vous tremblez comme la feuille.
C'est un malheur que j'ai toujours eu, dit Octave. Monsieur d'Ollier, fort mécontent, ne dit plus mot. L'heure silencieuse que l'on mit pour aller de Paris à Meudon fut pour Octave l'instant le plus doux qu'il eût trouvé depuis son malheur. Il n'avait nullement cherché ce combat. Il comptait se défendre vivement. Mais enfin, s'il était tué, il n'aurait aucun reproche à se faire. Dans l'état où étaient ses affaires, la mort était pour lui le premier des bonheurs.
On arriva dans un lieu reculé du bois de Meudon. Mais monsieur de Crèveroche, plus affecté et plus dandy qu'à l'ordinaire, trouva des objections ridicules contre deux ou trois places. Monsieur d'Ollier se contenait à peine. Octave avait beaucoup de peine à le retenir. « Laissez-moi du moins le témoin, » dit monsieur d'Ollier. « Je veux lui faire entendre ce que je pense de tous les deux. »«
Renvoyez ces idées à demain, » reprit Octave d'un ton sévère. « Songez qu'aujourd'hui vous avez eu la bonté de me promettre de me rendre un service. »
Le témoin de monsieur de Crèveroche nomma les pistolets avant de parler d'épée. Octave trouva la chose de mauvais goût et fit un signe à monsieur d'Ollier qui accepta sur-le-champ. Enfin, l'on fit feu. Monsieur de Crèveroche, tireur fort habile, eut le premier coup. Octave fut blessé à la cuisse. Le sang coulait avec abondance. « J'ai le droit de tirer, » dit-il froidement. Et monsieur de Crèveroche eut une jambe effleurée. « Serrez-moi la cuisse avec mon mouchoir et le vôtre, » dit Octave à son domestique. « Il faut que le sang ne coule pas pendant quelques minutes. »«
Quel est donc votre projet ?» dit monsieur d'Ollier.
« De continuer, » reprit Octave. « Je ne me sens point faible. J'ai autant de force qu'en arrivant. Je finirai toute autre affaire. Pourquoi ne pas terminer celle-ci ? » ?»«
Mais elle me semble plus que terminée, » dit monsieur d'Ollier.
« Et votre colère d'il y a 10 minutes, qu'est-elle devenue ? Cet homme n'a voulu nous insulter en rien, » reprit monsieur d'Ollier. « C'est un sot, tout simplement. » Les témoins, après s'être parlé, s'opposèrent nettement à un nouveau feu. Octave s'était aperçu que le témoin de monsieur de Crèveroche était un être subalterne, peut-être poussé dans le monde par sa bravoure, mais au fond, en état d'adoration constante devant le marquis. Il adressa quelques mots piquants à celui-ci. Monsieur de Mélon fut réduit au silence par un mot ferme de son ami, et le témoin d'Octave ne put plus décemment ouvrir la bouche. Tout en parlant, Octave était peut-être plus heureux qu'il ne l'avait été de sa vie entière. Je ne sais quel espoir vague et criminel il fondait sur sa blessure qui allait le retenir quelques jours chez sa mère, et par conséquent, pas fort loin d'Armance. Enfin, monsieur de Crèveroche, rouge de colère, et Octave, le plus heureux des hommes, obtinrent, au bout d'un quart d'heure, qu'on rechargerait les pistolets. Monsieur de Crèveroche, furieux de la crainte de ne pouvoir danser de quelques semaines à cause de son écorchure à la jambe, proposa en vain de tirer à bout portant. Les témoins menacèrent de les planter là avec leurs domestiques et d'emporter les pistolets s'ils se rapprochaient d'un pas. Le sort favorisa encore monsieur de Crèveroche. Il visa longtemps et fit à Octave une blessure grave au bras droit. « Monsieur, lui cria Octave, vous devez attendre mon feu. Permettez que je fasse serrer mon bras. » Cette opération rapidement terminée, et le domestique d'Octave, ancien soldat, ayant mouillé le mouchoir avec de l'eau-de-vie, ce qui le fit serrer très ferme, « Je me sens assez fort, » dit Octave à monsieur d'Ollier. Il tira. Monsieur de Crèveroche tomba et mourut 2 minutes après. Octave, appuyé sur son domestique, se rapprocha de son cabriolet et monta, sans dire un seul mot. Monsieur d'Ollier ne put s'empêcher de plaindre ce beau jeune homme expirant et dont on voyait les membres se roidir à quelques pas d'eux. « Ce n'est qu'un fat de moins, » dit froidement Octave. Au bout de 20 minutes, quoique le cabriolet n'allât qu'au pas, « Le bras me fait bien mal, » dit Octave à monsieur d'Ollier. « Le mouchoir me serre trop. » Et tout à coup, il s'évanouit. Il ne reprit connaissance qu'une heure après, dans la chaumière d'un jardinier, bonhomme fort humain, et que monsieur d'Ollier avait commencé par bien payer en entrant chez lui. « Vous savez, mon cher cousin, lui dit Octave, combien ma mère est souffrante. Quittez-moi. Passez rue Saint-Dominique. Si vous ne trouvez pas ma mère à Paris, ayez l'extrême bonté d'aller jusqu'à Andilly. Apprenez-lui, avec tous les ménagements possibles, que j'ai fait une chute de cheval et me suis cassé un os du bras droit. Ne parlez ni de duel ni de bal. J'ai lieu d'espérer que certaines circonstances, que je vous conterai plus tard, empêcheront que cette légère blessure ne mette ma mère au désespoir. Ne parlez de duel qu'à la police, s'il le faut, et envoyez-moi un chirurgien. Si vous allez jusqu'au château d'Andilly, qui est à 5 minutes du village, faites demander mademoiselle Armance de Zoïloff. Elle préparera ma mère au récit que vous avez à lui faire. Nommée Armance fit une révolution dans la situation d'Octave. Il osait donc prononcer ce nom, chose qu'il s'était tant défendue. Il ne la quitterait pas d'un mois, peut-être. Cet instant fut rempli de délices. Pendant le combat, Octave avait souvent entrevu l'idée d'Armance, mais il se la défendait sévèrement. Après l'avoir nommée, il osa penser à elle un instant. Peu après, il se sentit bien faible. « Ah, si j'allais mourir !» se dit-il avec joie. Et il se permit de penser à Armance comme avant la fatale découverte de l'amour qu'il avait pour elle. Octave remarqua que les paysans qui l'entouraient paraissaient fort alarmés. Les signes de leur inquiétude diminuèrent ses remords de la permission qu'il se donnait de penser à sa cousine. « Si mes blessures tournent mal, se dit-il, il me sera permis de lui écrire. J'ai été bien cruel envers elle. » L'idée d'écrire à Armance ayant paru une fois, s'empara tout à fait de l'esprit d'Octave. « Si je me sens mieux, se dit-il enfin pour calmer les reproches qu'il se faisait, je serai toujours le maître de brûler ma lettre. » Octave souffrait beaucoup. Il était survenu un violent mal de tête. « Je puis mourir tout à coup ?» se dit-il gaiement et en s'efforçant de se rappeler quelques idées d'anatomie. « Ah ! Il doit m'être permis d'écrire !» Enfin, il eut la faiblesse de demander une plume, du papier et de l'encre. On put bien lui procurer une feuille de gros papier d'écolier et une mauvaise plume, mais il n'y avait pas d'encre dans la maison. Oserons-nous l'avouer? Octave eut l'enfantillage d'écrire avec son sang qui coulait encore un peu à travers le bandage de son bras droit. Il écrivit de la main gauche, et avec plus de facilité qu'il ne l'espérait. « Ma chère cousine, je viens de recevoir 2 blessures qui peuvent me retenir à la maison 15 jours chacune. Comme vous êtes, après ma mère, ce que je révère le plus au monde, je vous fais ces lignes pour vous annoncer ce que dessus. Si je courais quelque danger, je vous le dirais. Vous m'avez accoutumée aux preuves de votre tendre amitié. Auriez-vous la bonté de vous trouver comme par hasard chez ma mère ?» à laquelle M. Dollier va parler d'une simple chute de cheval et d'une fracture du bras droit. Savez-vous, ma chère Armance, que nous avons 2 os à la partie du bras qui joint la main. C'est un de ces os qui est cassé. Parmi les blessures qui retiennent 1 mois à la maison, c'est la plus simple que j'ai pu imaginer. Je ne sais si les convenances permettent que vous me voyiez pendant ma maladie. Je crains que non. J'ai envie de commettre une indiscrétion. À cause de mon petit escalier, on proposera peut-être de placer mon lit dans le salon qu'il faut traverser pour aller à la chambre de ma mère, et j'accepterai. Je vous prie de brûler ma lettre à l'instant même. Je viens de m'évanouir. C'est l'effet naturel et nullement dangereux de l'hémorragie. Me voilà déjà dans les termes savants. Vous avez été ma dernière pensée en perdant connaissance, et ma première en revenant à la vie. Si vous le trouvez convenable, venez à Paris avant ma mère. Le transport d'un blessé, quand il ne s'agirait que d'une simple entorse, a toujours quelque chose de sinistre qu'il faut lui épargner. Un de vos malheurs, chère Armance, c'est de n'avoir plus vos parents. Si je meurs par hasard, et contre toute apparence, vous serez séparés de qui vous aimez mieux qu'un père n'aime sa fille. Je prie Dieu qu'il vous accorde le bonheur dont vous êtes digne. C'est beaucoup, beaucoup dire. Octave. Post-scriptum. Pardonnez des mots durs qui alors étaient nécessaires. L'idée de la mort étant venue à Octave, il fit chercher une seconde feuille de papier au milieu de laquelle il écrivit « Je lègue la propriété de tout ce que je possède maintenant à Mademoiselle Armance de Zoïlov, ma cousine, comme un faible témoignage de ma reconnaissance pour les soins que je suis sûre qu'elle donnera à ma mère lorsque je ne serai plus. » Fait à Clamart, le 1820, Octave de Malivert. Et il fit signer deux témoins, la qualité de l'encre lui donnant quelques doutes sur la validité d'un tel acte.
Chapitre 22. To the dull, plodding man, whose vulgar soul is awake only to the gross and paltry interests of everyday life, the spectacle of a noble being, plunged in misfortune by the resistless force of passion, serves only as an object of scorn and ridicule. Decker.
Comme les témoins achevaient de signer, il s'évanouit de nouveau. Les paysans fort inquiets étaient allés chercher leur curé. Enfin, deux chirurgiens arrivèrent de Paris et jugèrent qu'Octave était fort mal. Ces messieurs furent frappés de l'ennui qu'il y aurait pour eux à venir chaque jour à Clamart, et décidèrent que le blessé serait transporté à Paris. Octave avait expédié sa lettre à Armance par un jeune paysan de bonne volonté qui prit un cheval à la poste et promit d'être, en moins de 2 heures, au château d'Andilly. Cette lettre précéda M. Dollier, qui était resté longtemps à Paris pour trouver des chirurgiens. Le jeune paysan sut fort bien se faire introduire auprès de Mademoiselle de Zoïlov sans faire de bruit dans la maison. Elle lut la lettre. À peine eut-elle la force de faire quelques questions. Tout son courage l'avait abandonnée. Elle se trouvait, en recevant cette fatale nouvelle, dans cette disposition au découragement qui suit les grands sacrifices commandés par le devoir, mais qui n'ont produit qu'une situation tranquille et sans mouvement. Elle cherchait à s'accoutumer à la pensée de ne jamais revoir Octave, mais l'idée de sa mort ne s'était point présentée à elle. Cette dernière rigueur de la fortune la prit au dépourvu. En écoutant les détails, fort alarmants, que donnait le jeune paysan, ses sanglots l'étouffaient. Et mesdames de Bonnivet et de Malivert étaient dans la pièce voisine. Armance frémit de l'idée d'en être entendue et de paraître à leurs yeux dans l'état où elle se trouvait. Cette vue eût donné la mort à madame de Malivert. Et plus tard, madame de Bonnivet en eût fait une anecdote tragique et touchante, fort désagréable pour l'héroïne. Mademoiselle de Zoïlov ne pouvait, dans aucun cas, laissez voir à une mère malheureuse cette lettre écrite avec le sang de son fils. Elle s'arrêta à l'idée de venir à Paris et de se faire accompagner par une femme de chambre. Cette femme l'encouragea à prendre le jeune paysan avec elle dans la voiture. Je ne dirai rien des tristes détails qui lui furent répétés pendant ce voyage. On arriva dans la rue Saint-Dominique. Elle frémit en apercevant de loin la maison dans une chambre de laquelle Octave rendait peut-être le dernier soupir. Il se trouva qu'il n'était point encore arrivé. Armance n'eut plus de doute. Elle le crut mort dans la chaumière du paysan de Clamart. Son désespoir l'empêchait de donner les ordres les plus simples. Elle parvint enfin à dire qu'il fallait préparer un lit dans le salon. Les domestiques étonnés lui obéissaient sans la comprendre. Armance avait envoyé chercher une voiture, et ne songeait qu'à trouver un prétexte qui lui permît d'aller à Clamart. Tout lui parut devoir céder à l'obligation de secourir Octave dans ses derniers moments, s'il vivait encore. « Que me fait le monde et ses vains jugements ?» se disait-elle. « Je ne le ménageais que pour lui. Et d'ailleurs, si l'opinion est raisonnable, elle doit m'approuver. » Comme elle allait partir, à un grand bruit qui se fit à la porte cochère, elle comprit qu'Octave arrivait. la fatigue causée par le mouvement du voyage l'avait fait retomber dans un état d'insensibilité complète. Armance, entr'ouvrant une fenêtre qui donnait sur la cour, aperçut entre les épaules des paysans qui portaient le brancard la figure pâle d'Octave profondément évanouie. Cette tête inanimée qui suivait le mouvement du brancard et allait de côté et d'autre sur l'oreiller fut un spectacle trop cruel pour Armance, qui tomba sans mouvement sur la fenêtre. Lorsque les chirurgiens, après avoir posé le premier appareil, vinrent lui rendre compte de l'état du blessé, comme à la seule personne de la famille qui fut dans la maison, ils la trouvèrent silencieuse, les regardant fixement, ne pouvant répondre, et dans un état qu'ils jugèrent voisin de la folie. Elle n'ajouta pas la moindre foi à tout ce qu'ils lui dirent. Elle croyait ce qu'elle avait vu. Cette personne si raisonnable avait perdu tout empire sur elle-même. Étouffée par ses sanglots, elle relisait sans cesse la lettre d'Octave. Dans l'égarement de sa douleur, en présence d'une femme de chambre, elle osait la porter à ses lèvres. À force de relire cette lettre, Armance y vit l'ordre de la brûler. Jamais sacrifice ne fut plus pénible. Il fallait donc se séparer de tout ce qui lui resterait d'Octave, mais il l'avait désiré. Malgré ses sanglots, Armance entreprit de copier cette lettre. Elle s'interrompait à chaque ligne pour la presser contre ses lèvres. Enfin, elle eut le courage de la brûler sur le marbre de sa petite table. Elle en recueillit les cendres précieusement. Le domestique d'Octave, le fidèle Vorepe, sanglotait auprès de son lit. Il se souvint qu'il avait une seconde lettre écrite par son maître. C'était le testament. Ce papier avertit Armance qu'elle n'était pas seule à souffrir. Il fallait repartir pour Andilly et aller porter des nouvelles d'Octave à sa mère. Elle passa devant le lit du blessé, dont l'extrême pâleur et l'immobilité semblaient annoncer la mort prochaine. Cependant, il respirait encore. L'abandonner en cet état aux soins des domestiques et d'un petit chirurgien du voisinage qu'elle avait fait appeler fut le sacrifice le plus pénible de tous. En arrivant à Andilly, Armance trouva M. Dollier qui n'avait pas encore vu la mère d'Octave. Armance avait oublié que ce matin-là, toute la société avait fait la partie d'aller au château des Coin. On attendit longtemps le retour de ces dames, et M. Dollier eut le temps de dire ce qui s'était passé le matin. Il ne savait pas l'objet de la querelle avec M. de Crèveroche. Enfin, on entendit les chevaux rentrant dans la cour. M. Dollier voulut se retirer pour ne paraître que dans le cas où M. de Malivert désirerait sa présence. Armance, de l'air le moins alarmé qu'elle put prendre, annonça à Madame de Malivert que son fils venait de faire une chute de cheval dans une promenade du matin et s'était cassé un os du bras droit. Mais ses sanglots, que dès la seconde phrase elle ne fut plus maîtresse de retenir, démentaient son récit à chaque mot. Il serait superflu de parler du désespoir de Madame de Malivert. Le pauvre marquis était atterré. Madame de Bonnivet, fort touchée elle-même, et qui voulut absolument les suivre à Paris, ne pouvait lui rendre le moindre courage. Madame d'Aumale s'était échappée au premier mot de l'accident d'Octave et galopait sur la route de la barrière de Clichy. Elle arriva rue Saint-Dominique longtemps avant la famille, apprit toute la vérité du domestique d'Octave et disparut quand elle entendit la voiture de Madame de Malivert s'arrêter à la porte. Les chirurgiens avaient dit que, dans l'état de faiblesse extrême où se trouvait le blessé, toute émotion forte devait être soigneusement évitée. Madame de Malivert passa derrière le lit de son fils, de manière à le voir sans en être aperçue. Elle se hâta de faire appeler son ami, le célèbre chirurgien Duquerel. Le premier jour, cet homme habile augura bien des blessures d'Octave. On espéra dans la maison. Pour Armance, elle avait été frappée dès le premier instant et ne se fit jamais la moindre illusion. Octave, ne pouvant lui parler en présence de tant de témoins, une fois essaya de lui serrer la main. Le cinquième jour, le tétanos parut. Dans un moment où un redoublement de fièvre lui donnait des forces, Octave pria fort sérieusement M. Duquerel de lui dire toute la vérité. Ce chirurgien, homme d'un vrai courage et plus d'une fois atteint lui-même sur les champs de bataille par la lance du Cosaque, lui répondit. « Monsieur, je ne vous cacherai pas qu'il y a du danger, mais j'ai vu plus d'un blessé dans votre état résister au tétanos. » « Dans quelle proportion ? » reprit Octave. « Puisque vous voulez finir en homme, dit M. Duquerel, il y a deux à parier contre un que dans 3 jours vous ne souffrirez plus. Si vous avez à vous réconcilier avec le ciel, c'est le moment. » Octave resta pensif après cette déclaration. Mais bientôt un sentiment de joie et un sourire très marqué succédèrent à ses réflexions. L'excellent Duquerel fut alarmé de cette joie, qu'il prit pour un commencement de délire.
Chapitre 23. Tu sei un niente, o morte, ma sarebbe mai dopo sceso il primo gradino della mia tomba, che mi verrebbe dato di veder la vita come ella è realmente? Guasco.
Jusqu'à ce moment, Armance n'avait jamais vu son cousin qu'en présence de sa mère. Ce jour-là, après la sortie du chirurgien, Madame de Malivert crut apercevoir dans les yeux d'Octave une force inusitée et le désir de parler à Mademoiselle de Zoïloff. Elle pria sa jeune parente de la remplacer un instant auprès de son fils, pendant qu'elle irait écrire dans la pièce voisine un mot indispensable. Octave suivit sa mère des yeux. Dès qu'il ne la vit plus, « Chère Armance, dit-il, je vais mourir. Ce moment a quelques privilèges, et vous ne vous offenserez pas de ce que je vais vous dire pour la première fois de ma vie. Je meurs comme j'ai vécu, en vous aimant avec passion, et la mort m'est douce parce qu'elle me permet de vous faire cet aveu. » Le saisissement d'Armance l'empêcha de répondre. Les larmes inondèrent ses yeux, et, chose étrange, ses larmes étaient de bonheur. « L'amitié la plus dévouée et la plus tendre, lui dit-elle enfin, attache ma destinée à la vôtre. » « J'entends, reprit Octave, je suis doublement heureux de mourir. Vous m'accordez votre amitié, mais votre cœur appartient à un autre, à cet homme heureux qui a reçu la promesse de votre main. » L'accent d'Octave était trop plein de malheur. Armance n'eut pas le courage de l'affliger en ce moment suprême. « Non, mon cher cousin, lui dit-elle, je ne puis avoir pour vous que de l'amitié, mais personne sur la terre ne m'est plus cher que vous ne l'êtes. » « Et le mariage dont vous m'aviez parlé ? » dit Octave. « Je ne me suis permis dans toute ma vie que ce seul mensonge, et je vous supplie de me le pardonner. Je n'ai vu que ce moyen de résister à un projet qu'avait inspiré à Madame de Malivert l'excès de sa prévention pour moi. Jamais je ne serai sa fille, mais jamais je n'aimerai personne plus que je ne vous aime. C'est à vous, mon cousin, de voir si vous voulez de mon amitié à ce prix. Si je devais vivre, je serais heureux. J'ai encore une condition à faire, ajouta Armance. Pour que j'ose goûter sans contrainte le bonheur d'être parfaitement sincère avec vous, promettez-moi que si le ciel nous accorde votre guérison, jamais il ne sera question de mariage entre nous. « Quelle étrange condition ! » dit Octave. « Voudriez-vous encore me jurer que vous n'avez d'amour pour personne ? » ?»« Je vous jure, reprit Armance les larmes aux yeux, que de ma vie je n'ai aimé qu'Octave, et qu'il est de bien loin ce que je chéris le plus au monde, mais je ne puis avoir pour lui que de l'amitié, » ajouta-t-elle en rougissant beaucoup du mot qui venait de lui échapper. « Et jamais je ne pourrai lui accorder ma confiance s'il ne me donne sa parole d'honneur que, quoi qu'il puisse arriver, de sa vie il ne fera aucune démarche directe ou indirecte pour obtenir ma main. » Je vous le jure, dit Octave, profondément étonné. Mais Armance me permettra-t-elle de lui parler de mon amour? Ce sera le nom que vous donnerez à notre amitié, dit Armance avec un regard enchanteur. Il n'y a que peu de jours, reprit Octave, que je sais que je vous aime. Ce n'est pas que depuis longtemps. Jamais 5 minutes est passée sans que le souvenir d'Armance ne vînt décider si je devais m'estimer heureux ou malheureux. Mais j'étais aveugle. Un instant après notre conversation dans le bois d'Andilly, une plaisanterie de Madame d'Aumale me prouva que je vous aimais. Cette nuit-là, j'éprouvais ce que le désespoir a de plus cruel. Je croyais devoir vous fuir. Je pris la résolution de vous oublier et de partir. Le matin, en rentrant de la forêt, je vous rencontrai dans le jardin du château, et je vous parlai avec dureté, afin que votre juste indignation contre un procédé si atroce me donnât des forces contre le sentiment qui me retenait en France. Si vous m'aviez adressé une seule de ces paroles si douces que vous me disiez quelquefois, si vous m'aviez regardé, jamais je n'aurais retrouvé le courage qu'il me fallait pour partir. Me pardonnez-vous? Vous m'avez rendue bien malheureuse, mais je vous avais pardonné avant l'aveu que vous venez de me faire. Il y avait une heure qu'Octave goûtait, pour la première fois de sa vie, le bonheur de parler de son amour à l'être qu'il aimait. Un seul mot venait de changer du tout au tout la position d'Octave et d'Armance. Et comme depuis longtemps, penser l'un à l'autre occupait tous les instants de leur existence, un étonnement rempli de charme leur faisait oublier le voisinage de la mort. Ils ne pouvaient se dire un mot sans découvrir de nouvelles raisons de s'aimer. Plusieurs fois, Madame de Malivert était venue sur la pointe du pied jusqu'à la porte de sa chambre. Elle n'avait point été aperçue par deux êtres qui avaient tout oublié, jusqu'à la mort cruelle prête à les séparer. Elle craignit à la fin que l'agitation d'Octave n'augmentât le danger. Elle s'approcha et leur dit presque en riant, « Savez-vous, mes enfants, qu'il y a plus d'une heure et demie que vous vous parlez? Cela peut augmenter ta fièvre. » « Chère maman, je puis t'assurer, répondit Octave, que depuis 4 jours je ne me suis pas senti aussi bien. » Il dit à Armance, « Une chose m'agite quand j'ai la fièvre très fort. Ce pauvre marquis de Crèveroche avait un chien fort beau qui paraissait lui être très attaché. Je crains que cette pauvre bête ne soit négligée depuis que son maître n'est plus. Vos répés, ne pourrait-il pas se déguiser en braconnier et aller acheter ce beau chien braque? Je voudrais du moins avoir la certitude qu'il est bien traité. J'espère le voir. Dans tous les cas, je vous le donne, ma chère cousine. » Après cette journée si agitée, Octave tomba dans un profond sommeil. Mais le lendemain, le tétanos reparut. Monsieur du Quérel se crut obligé de parler au marquis, et le désespoir fut au comble dans cette maison. Malgré la roideur de son caractère, Octave était chéri des domestiques. On aimait sa fermeté et sa justice. Pour lui, quoiqu'il souffrît quelquefois d'une manière atroce, plus heureux qu'il ne l'avait été dans le cours de toute sa vie, l'approche de la fin de cette vie la lui faisait juger enfin d'une manière raisonnable et qui redoublait son amour pour Armance. C'était à elle qu'il devait le peu d'instants heureux qu'il apercevait au milieu de cet océan de sensations amères et de malheurs. Par ses conseils, au lieu de bouder le monde, il avait agi et s'était guéri de beaucoup de faux jugements qui augmentaient sa misère. Octave souffrait beaucoup. Mais au grand étonnement du bon du Quérel, il vivait, il avait même des forces. Il eut besoin de 8 jours entiers pour renoncer au serment de ne jamais aimer, qui avait été la grande affaire de toute sa vie. Le voisinage de la mort l'engagea d'abord à se pardonner sincèrement la violation de ce serment. « On meurt comme on peut, » se disait-il. « Moi, je meurs au comble du bonheur. Le hasard me devait peut-être cette compensation, après avoir fait de moi un être constamment si misérable. « Mais je puis vivre !» pensait-il. Et alors, il était plus embarrassé. Enfin, il arriva à se dire que, dans le cas peu probable où il survivrait à ses blessures, le manque de caractère consisterait à tenir ce vœu téméraire qu'il avait fait dans sa jeunesse, et non pas à le violer. Car enfin, ce serment ne fut fait que dans l'intérêt de mon bonheur et de mon honneur. Pourquoi, si je vis, ne pas continuer à goûter auprès d'Armance les douceurs de cette amitié si tendre qu'elle m'a jurée? Est-il en mon pouvoir de ne pas sentir l'amour passionné que j'ai pour elle? Octave était étonné de vivre. Quand enfin, après 8 jours de combat, il eut résolu tous les problèmes qui troublaient son âme, et qu'il se fut entièrement résigné à accepter le bonheur imprévu que le ciel lui envoyait, en 24 heures son état changea du tout au tout, et les médecins les plus pessimistes osèrent répondre à madame de Malivert de la vie de son fils. Peu à peu la fièvre tomba, et il tomba dans une faiblesse extrême, il ne pouvait presque parler. À son retour à la vie, Octave fut saisi d'un long étonnement. Tout était changé pour lui. « Il me semble, disait-il à Armance, qu'avant cet accident, j'étais fou. À chaque instant, je songeais à vous, et j'avais l'art de tirer du malheur de cette idée charmante. Au lieu de conformer ma conduite aux événements que je rencontrais dans la vie, je m'étais fait une règle antérieure à toute expérience. « Voilà de la mauvaise philosophie, disait Armance en riant. Voilà pourquoi ma tante voulait absolument vous convertir. Vous êtes vraiment fous par excès d'orgueil, messieurs les gens sages. Je ne sais pourquoi nous vous préférons, car vous n'êtes point gais. Pour moi, je m'en veux de ne pas avoir de l'amitié pour quelque jeune homme bien inconséquent et qui ne parle que de son tilbury. » Quand il eut toute sa tête, Octave se fit bien encore quelques reproches d'avoir violé ses serments. Il s'estimait un peu moins. Mais le bonheur de tout dire à mademoiselle de Zoïloff, même les remords qu'il éprouvait de l'aimer avec passion, formaient pour cet être, qui de la vie ne s'était confié à personne, un état de félicité tellement au-dessus de tout ce qu'il avait pensé, qu'il n'eut jamais l'idée sérieuse de reprendre ses préjugés et sa tristesse d'autrefois. En me promettant à moi-même de ne jamais aimer, je m'étais imposé une tâche au-dessus des forces de l'humanité. Aussi ai-je été constamment malheureux, et cet état violent a duré 5 années. J'ai trouvé un cœur tel que jamais je n'avais eu la moindre idée qu'il pût en exister un semblable sur la terre. Le hasard, déjouant ma folie, me fait rencontrer le bonheur, et je m'en offense, j'en suis presque en colère. En quoi est-ce que j'agis contre l'honneur? Qui a connu mon vœu pour me reprocher de le violer? Mais c'est une habitude méprisable que celle d'oublier ses serments. N'est-ce donc rien que d'avoir à rougir à ses propres yeux? Mais il y a là cercle vicieux. Ne me suis-je pas donné à moi-même d'excellentes raisons pour violer ce serment téméraire fait par un enfant de 16 ans? L'existence d'un cœur comme celui d'Armance répond à tout. Toutefois, tel est l'empire d'une longue habitude. Octave n'était parfaitement heureux qu'auprès de sa cousine. Il avait besoin de sa présence. Un doute venait quelquefois troubler le bonheur d'Armance. Il lui semblait qu'Octave ne lui faisait pas une confidence bien complète des motifs qui l'avaient porté à la fuir et à quitter la France après la nuit passée dans le bois d'Andilly. Elle trouvait au-dessous de sa dignité de faire des questions. Mais elle lui dit un jour, et même d'un air assez sévère, « Si vous voulez que je me livre au penchant que je me sens à avoir pour vous beaucoup d'amitié, il faut que vous me rassuriez contre la crainte d'être abandonné tout à coup, en vertu de quelque idée bizarre qui vous aura passé par la tête. Promettez-moi de ne jamais quitter le lieu où je serai avec vous, Paris ou Andilly, peu importe, sans me dire tous vos motifs. » Octave promit. Le 60e jour après sa blessure, il put se lever. Et la marquise, qui sentait vivement l'absence de mademoiselle de Zoïloff, la redemanda à madame de Malivert, à qui ce départ fit une sorte de plaisir. On s'observe moins dans l'intimité de la vie domestique et pendant l'inquiétude d'une grande douleur. Le vernis brillant d'une extrême politesse est alors moins sensible, et les vraies qualités de l'âme reprennent tout leur avantage. Le manque de fortune de cette jeune parente et son nom étranger, que M. de Soubirane avait soin de toujours mal prononcer, avait porté le commandeur, et même quelquefois M. de Malivert, à lui parler un peu comme à une dame de compagnie. Madame de Malivert tremblait qu'Octave ne s'en aperçût. Le respect qui lui fermait la bouche à l'égard de son père ne lui eût fait prendre la chose qu'avec plus de hauteur envers M. de Soubirane, et l'amour-propre irritable du commandeur n'eût pas manqué de se venger par quelque histoire fâcheuse qu'il aurait fait courir sur le compte de mademoiselle de Zoïloff. Ses propos pouvaient revenir à Octave, et avec la violence de son caractère, madame de Malivert prévoyait les scènes les plus pénibles et peut-être les moins possibles à cacher. Heureusement, rien de ce qu'avait rêvé son imagination un peu vive n'arriva. Octave ne s'était aperçu de rien. Armance avait repris l'égalité envers M. de Soubirane par quelques épigrammes détournées sur la vivacité de la guerre que dans les derniers temps les chevaliers de Malte faisaient aux Turcs, tandis que les officiers russes, avec leur nom peu connu dans l'histoire, prenaient Ismailov. Madame de Malivert songeait d'avance aux intérêts de sa belle-fille et aux désavantages immenses d'entrer dans le monde sans fortune et sans nom. Fit à quelques amis intimes des confidences destinées à discréditer d'avance tout ce que la vanité blessée pourrait inspirer à M. de Soubirane. Ces précautions excessives n'eussent peut-être pas été déplacées. Mais le commandeur, qui jouait à la bourse depuis l'indemnité de sa sœur, et qui jouait à coup sûr, fit une perte assez considérable, qui lui fit oublier ses velléités de haine. Après le départ d'Armance, Octave, qui ne la voyait plus qu'en présence de madame de Bonnivet, eut des idées sombres. Il songeait de nouveau à son ancien serment. Comme sa blessure au bras le faisait souffrir constamment, et même quelquefois lui donnait la fièvre, les médecins proposèrent de l'envoyer aux eaux de Barège. Mais M. du Quérel, qui savait ne pas traiter tous ses malades de la même manière, prétendit qu'un air un peu vif suffirait au rétablissement du malade, et lui ordonna de passer l'automne sur les coteaux d'Andilly. Ce lieu était cher à Octave. Dès le lendemain, il y fut établi. Ce n'est pas qu'il eût l'espoir d'y retrouver Armance. Madame de Bonnivet parlait depuis longtemps d'un voyage au fond du Poitou. Elle faisait rétablir à grands frais l'antique château où l'amiral de Bonnivet avait jadis eu l'honneur de recevoir François Ier, et mademoiselle de Zoïloff devait l'accompagner. Mais la marquise eut l'avis secret d'une promotion prochaine dans l'ordre du Saint-Esprit. Le feu roi avait promis le cordon bleu à M. de Bonnivet. En conséquence, l'architecte poitevin écrivit bientôt que la présence de madame serait sans objet dans le moment présent, parce qu'on manquait d'ouvriers. Et peu de jours après l'arrivée d'Octave, madame de Bonnivet vint s'établir à Andilly.